Merci. Je suis vraiment très content d'être là avec vous parce que Wikipédia fait partie de mes héros. Pour moi, ce n'est pas des lignes de code, c'est une espèce de Gaïa numérique qui se déplace dans le cyberespace avec ses grandes histoires, ses grands récits et ses mythes. Alors, je vais essayer de vous parler un peu de la façon dont les adolescents peuvent s'appuyer en général dans le cyberespace pour grandir. C'est ce qu'ils font, hein, parce qu'ils en sont, ils sont des digiborigènes, ils parcourent ces espaces librement, ou le plus librement possible. Et ensuite, j'essaierai de vous montrer comment est-ce qu'ils peuvent plus électivement s'appuyer sur un wiki, que ce soit un Wikipédia, ou Wikiwa, ou Wiki, tout ce que vous voulez. Alors, pour commencer, il faut quand même se remettre en mémoire que les rapports des adolescents avec les médias sont compliqués, hein, de tout temps, pratiquement. Je ne vais pas remonter jusqu'à Lascaux, hein, mais peut-être que les fraises de Lascaux ont été faites par des adolescents qui se sont fait engueuler parce qu'ils ont tagué les murs de la grotte. Mais si on en reste aux années 50, déjà, la radio crachotait une musique qui mettait en émoi les ligues de vertu parce qu'on considérait que le rock'n'roll était quand même la musique du diable. Et depuis les années 50, ça n'a pas cessé. Tous les médias ont attiré des adolescents et à chaque fois ont attiré des ligues de bonne vertu qui nous ont expliqué que c'était tout à fait problématique. On a commencé avec la radio, ça a été vrai avec la télévision, ça a été vrai avec les comics, avant que ça devienne quelque chose à produire des milliards de dollars, des millions plutôt, n'exagérons pas. C'était quelque chose, les Pulp Fiction étaient véritablement mis à l'index. Après les comics, on a eu la télévision qui captait trop la jeunesse. Et en France, on a eu le Club Dorothée. Et on a eu, bien entendu, les dessins animés, les mangas, etc., etc. À ce propos, le plus grand dégât du Club Dorothée, ce n'est pas d'avoir passé Ken le Survivant, c'est d'avoir donné des très mauvaises traductions des animes qu'il passait et de les avoir passées dans n'importe quel sens, ce qui troublait le sens du temps de nos chères têtes blondes. Alors, c'était toujours compliqué, les histoires des médias et des enfants, et ça allait devenu encore plus avec l'Internet, qui est le média de tous les médias, parce que le réseau Internet, ou les objets et les matières numériques, réinterprètent tout ce qui existe avant leur arrivée. Un smartphone, un ordinateur, c'est à la fois un magnétoscope, un appareil photo, une caméra, quelque chose pour prendre des notes. C'est véritablement le couteau suisse des temps présents. Alors, à propos de l'Internet, on a eu toute une série de paniques morales à propos des adolescents, puisqu'on a accusé l'Internet ou les jeux vidéo de mettre en danger la bonne santé morale des enfants. Les enfants sont tous sur les sites de pornographie, si on écoute certains, où les enfants se transforment tous en tueurs nés à force de jouer à Call of Duty. Alors, avant de voir ça un peu plus dans le détail, je vous propose de voir assez rapidement la manière dont les adolescents grandissent, parce que c'est véritablement un travail à temps plein, même si l'on note la difficulté avec laquelle ils se lèvent le matin, c'est vraiment fatigant d'être adolescent. Alors, adolescent, c'est d'abord faire face à un bouleversement biologique total. Vous passez d'un état dans lequel vous viviez en harmonie avec votre corps, hein, à des moments de catastrophe, parce que votre cerveau est inondé d'hormones, votre corps se transforme, il ne se transforme jamais comme vous le voulez, il se transforme ou trop vite ou trop lentement, et de toute façon, il ne se transforme jamais en lien suffisant avec les idéaux que vous pouvez avoir. Avec ces bouleversements biologiques, il y a des bouleversements sociaux, puisque la société vous demande de plus en plus des choses que vous n'aviez pas à faire quand vous étiez enfant. Alors, dans les sociétés traditionnelles, ces bouleversements étaient accompagnés par des rites de passage qui permettaient à l'adolescent de savoir qu'il y avait un avant et un après. Alors, en Occident, on a un peu perdu ces rites, ou plutôt ils sont camouflés. On ne circoncit plus les garçons dans les forêts secrètes ou les bois sacrés, mais dans des hôpitaux. Mais par contre, quand ils arrivent en sixième, ils obtiennent un smartphone et ça leur, je ne sais pas si ça les console du prépuce perdu, mais en tout cas, ça leur donne de quoi quelque chose à tenir en main. Alors, pour faire face à à ces bouleversements, les adolescents utilisent des stratégies, des mécanismes de défense pour intégrer les changements auxquels ils sont confrontés et pour faire ce difficile travail de devenir soi, hein, et, ou ce travail qui leur permet de changer tout en restant eux-mêmes. Alors, je vais vous en donner quelques-uns parce qu'on ne va pas faire un cours entier de psychopathos. Un des mécanismes utilisés, l'intellectualisation, c'est ce mécanisme qui vous transforme un adolescent en expert de la politique du Moyen-Orient. L'adolescent, à ce moment-là, explique à table à ses parents à quel point les parents sont tout à fait idiots de soutenir la Palestine ou Israël. De toute façon, ils sont toujours idiots, c'est l'avantage de l'intellectualisation. Vous savez, vous êtes le maître et les mauvais élèves doivent recevoir la leçon. C'est un mécanisme qui est très intéressant parce qu'il permet de maintenir à distance tout le monde des émotions et des affects qui risquent toujours de submerger les adolescents. Je vais faire comme ça, je vais vous dire un peu comment ça peut marcher avec les wikis. L'avantage avec Wikipédia ou un autre wiki, on voit bien que l'investissement du wiki par l'adolescent va être soutenu par ce processus psychologique. Le plaisir à écrire des articles plus ou moins longs, à faire preuve de son intelligence, de son habileté, tout cela sont des choses qui sont en lien avec l'intellectualisation. Alors le second mécanisme qui est utilisé par les adolescents, c'est la régression, c'est un mécanisme qui est un peu opposé. Là, l'adolescent ne se pose pas en maître, mais il redevient une toute petite chose en train de pelotonner dans votre canapé et en train de c'est à ce moment-là où les adolescents ressortent les vieux jouets qu'ils n'utilisent plus depuis des lustres et des lustres. Alors avec les wikis, c'est un mécanisme qui peut être très bien utilisé, c'est le vandalisme. Il n'y a pas que les adolescents qui peuvent vandaliser les wikis, hein. Il paraît qu'il y a des grandes personnes qui peuvent s'amuser à cela. Mais pour un adolescent, c'est quand même formidable de trouver une très belle page Wikipédia, très bien organisée, et introduire son petit chaos personnel. Alors certains le font très finement, ils vont changer juste un ou deux mots, et puis il y en a d'autres qui aiment bien la bonne grosse régression scatologique et qui vont vous vandaliser la page de fond en comble. Alors que ce soit quelque chose qui soit très, là pour le coup, infiltré par l'intellectualisation et très fin, ou que ce soit quelque chose qui fonctionne à la grosse Bertha, c'est quand même un très grand plaisir de casser, de détruire des choses, même des choses aussi immatérielles qu'un wiki. Alors le dernier mécanisme dont je voulais vous parler, c'est l'ascétisme. C'est un mécanisme qui transforme les adolescents en « je veux être un Rambo ». C'est le moment où l'adolescent décide qu'il va se prendre en main, mais là, sans le côté érotisation, parce qu'on est justement de l'autre côté, il va se prendre en main et il va transformer ce corps d'enfant en un corps d'athlète parfait. Alors l'adolescent, à ce moment, décide de faire ses 50 pompes journalières à 4 heures du matin, juste avant d'aller courir, comme ça, il sera tout à fait bien... Il réussira à construire le corps qu'il souhaite. Alors ça peut durer 5 minutes ou 50 ans. Généralement, quand on est adolescent, ça dure 5 minutes. Alors c'est un mécanisme qui permet de mettre à distance le corps, hein, et de ne plus avoir à faire le dur travail d'être quelqu'un qui est incarné dans une enveloppe corporelle. Quand on est adolescent, c'est quand même tout bénef parce que vous avez toujours des moments où vous avez le bouton qui est mal placé, où vous avez la mèche de cheveux qui ne tombe pas du bon côté ou qui tombe trop, etc., etc. Alors, quand on est sur Internet, c'est quand même formidable parce que vous n'avez plus à vous préoccuper d'avoir des dreadlocks suffisamment longues ou courtes, d'être blond ou roux, ou d'avoir des locks ou être roux. Enfin, on peut mettre toutes les possibilités, puisque vous êtes très précisément ce que vous déclarer être. Et vous êtes pratiquement un pur esprit. Et c'est une des choses qui font qu'en ligne, on a ce plaisir et ce fantasme, cette illusion, mais c'est une illusion qui marche bien, d'être immédiatement en contact avec les autres. L'avantage des dispositifs en ligne, c'est qu'ils se font oublier. Un bon dispositif numérique, c'est un dispositif qui devient transparent et un dispositif pour lequel vous n'avez pas à vous poser la question de savoir comment ça marche ou comment vous allez l'utiliser. Alors, vous voyez que les mécanismes de défense qui sont utilisés pour digérer ce moment compliqué que peut être l'adolescence sont aussi mis en œuvre dans le cyberespace et peuvent être utilisés à l'occasion de la manipulation des wikis. Un wiki, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est une propriété qu'il partage avec d'autres dispositifs numériques, mais là c'est vraiment mis en avant, c'est que c'est quelque chose, c'est à la fois la mémoire et l'oubli. C'est quelque chose, vous pouvez éditer une page et puis l'effacer totalement, la vider de son contenu, et là c'est l'oubli qui est mis en avant, et puis c'est aussi une page qui retient, qui garde en mémoire toutes les transformations qu'elle a subies, et là c'est la mémoire qui est en jeu. Et pour les adolescents, c'est cette dynamique, cet aller-retour entre se souvenir et oublier est vraiment quelque chose de précieux parce qu'ils peuvent se laisser aller à faire des essais des erreurs, donc, j'ai envie de le dire, je le dis, sans avoir à se préoccuper trop du bon résultat. Hein. Et là, ils sont vraiment libérés de la chape de plomb surmoyée qui pèse sur l'enseignement traditionnel, puisque dans les écoles, on leur apprend à faire les choses bien, proprement et sans erreur, alors qu'avec quelque chose comme un wiki, ils peuvent faire bien, proprement, et ils ont le droit de faire des erreurs, et donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors pour terminer, parce que je vois un micro qui se lève, je voudrais vous dire que il me semble que l'intérêt de la participation à quelque chose comme un wiki pour un adolescent, c'est que ça lui permet de toucher du doigt, de s'approcher et de rentrer dans ce qui est véritablement la culture numérique. Il me semble que avec un wiki, on est à la fois en contact avec les multitudes. Vous n'êtes pas seul sur un wiki où ça n'a aucun intérêt. Il y a plusieurs personnes et plus il y a de monde, mieux c'est. Vous êtes en contact avec l'interactivité. Vous faites des choses et vous défaites des choses que d'autres ont fait et que d'autres ont défait aussi. Vous êtes en contact avec la participation. Les gens participent, ils collaborent ou ils coopèrent, hein, que ce soit... donc ils collaborent, ils coopèrent, tous ces éléments font que les adolescents s'acculturent aux cultures numériques et il me semble que c'est véritablement quelque chose que l'on devrait même leur apprendre à faire dès l'école plutôt que de pointer du doigt Wikipédia à tous les devoirs de français, d'histoire, de géographie ou de mathématiques qu'il y a dans les écoles de France et de Navarre. Voilà, je vais terminer là-dessus.
Alors, donc moi, je voulais revenir aussi sur une question donc par rapport justement au lien entre les adolescents et ce à quoi ils sont confrontés sur le web, dans le numérique, etc. Donc, vous avez parlé de la spécificité de Wikipédia, le fait qu'on peut intervenir, que c'est participatif, collaboratif. Est-ce que vous auriez des précisions à nous apporter sur les rapports que peuvent avoir les adolescents avec, d'une manière générale, le milieu du libre, en fait ? La philosophie du libre en tant que le fait que c'est justement quelque chose qui se construit, est-ce que c'est quelque chose dans lequel ils vont identifier des ressemblances et être capables de s'en saisir, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils font sans le savoir, un peu à la façon de M. Jourdain dans le Bourgeois Gentilhomme? Oui.
Alors, je ne sais pas si je suis le mieux.
Oui. Peut répondre après, Librel.
J'ai le sentiment que c'est plus une question pour un sociologue. Moi, les adolescents avec lesquels je suis en contact me connaissent généralement, massivement, la culture du libre. Ils en sont Pour eux, quelque chose est là sur Internet, ils le prennent, ils ont toujours l'impression de voler, parce que pour un adolescent, voler, c'est quand même plus glorieux que de prendre quelque chose librement. Et donc, voilà, la perception que j'en ai, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire auprès d'eux pour les familiariser, les sensibiliser à cette culture, pour qu'ils aillent préférentiellement vers ces choix-là.
Ok.
Oui. Oui, sur la familiarité au libre, oui, mais j'ai pas de réponse définitive à faire, mais je pense que c'est un outil pour ce qu'on a besoin de faire. C'est le cas pour Wikipédia et pour Wikidia. Et après, une question qui s'est posée à un moment, c'était sur la capacité des mineurs à céder le contenu qu'ils produisaient sous licence libre, étant donné qu'un mineur, théoriquement, n'a pas le droit de contracter, et que c'est un contrat, une licence libre. Et puis voilà, on a terminé cette discussion en estimant que ça faisait partie des actes de la vie courante de contribuer, et ça va peut-être dans le sens de l'article de la Convention des droits de l'enfant que je vous citais, qui estime que c'est un droit, que c'est important pour même pour des mineurs de s'exprimer, de rechercher et répandre des informations. Et donc le libre finalement correspond bien à ça, et un bon outil pour ça, quoi, pour à la fois pour rechercher légalement sans avoir des moyens importants, et pour répandre également des informations, pour les partager.
Je pense que c'est le moment de prendre des questions de la salle.
Le thème de la session est sur le travail collaboratif et apprentissage autonome. Je voulais juste, à travers aussi un petit peu l'expérience que l'on a sur le territoire à Brest, dire que pour moi, c'est un problème de société. Ce n'est pas seulement un problème d'éducation. Le numérique nous confronte pour la première fois de notre histoire à l'abondance. Or, à l'école, on nous a appris à cacher notre copie, on nous a appris à être noté par rapport aux voisins et donc d'être en compétition. Et les occasions de coopérer à l'école sont extrêmement rares. Et donc, les cultures collaboratives, elles existent très peu dans la société. Or, aujourd'hui, de plus en plus, pour mieux vivre dans la ville, pour développer un territoire, on a besoin d'apprendre à collaborer. Donc on a commencé sur le pays de Brest des formations avec Animacop et Outils Réseau sur les pratiques collaboratives. Là, on va former une centaine de personnes et on voit déjà les effets sur le territoire. C'est-à-dire que quand on aura sur un territoire des centaines, des milliers de personnes qui sont formées aux pratiques collaboratives, ça change les relations entre les institutions et les associations, ça permet à des gens de faire. Et je pense qu'il y a un vrai aujourd'hui besoin de former non pas des centaines, mais des dizaines de milliers de personnes. Donc moi je souhaite, enfin on va avec Jean-Michel Cornu et puis les gens qui travaillent autour des réseaux, d'Outils Réseau et du réseau AnimFR, on va lancer l'idée d'un MOOC, hein, d'un cours massivement ouvert sur justement les pratiques collaboratives, mais en faisant en sorte aussi que tous les supports de cours soient libres. Parce que l'expérience montre aussi que coopération sans libre, ça ne marche pas. Et donc je voulais aussi profiter un petit peu de cette session pour faire un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui étaient intéressés pour produire ensemble des ressources collaboratives et mettre en place un MOOC avec, j'espère, des centaines, voire des milliers de personnes qui y participent, pour que, effectivement, cette capacité à collaborer diffuse dans la société aujourd'hui.
Oui, bonjour. J'aurais voulu une information complémentaire sur Wikidia. Est-ce qu'il y a des initiatives de même, c'est une initiative française ou francophone, et est-ce qu'il y a des initiatives des expériences de même nature dans d'autres pays et dans d'autres langues?
Oui. Alors, dans d'autres langues, oui, il y a, donc j'en ai dit rapidement un mot. Il y a la version en néerlandais qui a été créée environ 6 mois avant Wikidia, et qui a à peu près le même développement, la même importance maintenant. et c'est un fonctionnement qui est assez proche également de Wikipédia, peut-être un petit peu moins de règles qui sont décidées sur le wiki lui-même, et puis un peu plus de place pour... Donc c'est une équipe d'enseignants en grande partie qui l'a créée, avec le soutien d'une organisation homologue de EduSchool, je crois, aux Pays-Bas. Mais ça reste dans un esprit assez ouvert à tous les contributeurs. Et sinon, il y a également, par exemple, en allemand, assez tôt, je ne sais plus, en 2005 ou 2006, qu'ils ont ouvert un ou plusieurs wikis pour enfants. Et il y a dû y avoir pas mal de communication dessus, parce que je vois qu'il y avait beaucoup de visites de la page d'accueil. Mais là, ils ont conçu ça de façon beaucoup plus fermée. C'est-à-dire qu'il fallait, pour créer un compte, il fallait s'identifier comme une école. Voilà, être autorisé. Donc, c'était pas ouvert à n'importe quel contributeur et à adulte ou enfant, mais à titre privé, quoi. Et là, son développement a été. Il y a toujours, je crois, toujours une petite activité, mais il est peut-être 5 ou 10 fois moins développé que WikiKids en néerlandais et Wikidia en français. Et voilà. Et sinon, nous, on a créé une version en espagnol et plus récemment en italien. Et en espagnol, il y a eu un petit développement, mais ça marche pas du tout aussi bien qu'en français. En italien, c'est encore plus rudimentaire. Donc, c'est quand même pas facile de faire vivre un wiki. Et c'est peut-être, c'est vrai que moi, ça m'étonne moi-même. Enfin, je suis un petit peu, je connais la question depuis quelques temps quand même, mais que c'est pas émergé dans des langues importantes comme l'allemand, où il y a seulement ces versions qui se développent pas bien parce qu'elles sont trop fermées. En anglais, il y a la version de Wikipédia en simple English, mais qui est pas aussi clairement pour les enfants, et ça peut pas rendre le même service, je pense. Donc ça m'étonne, moi, que ça se développe pas beaucoup mieux, mais on a quand même un homologue en néerlandais qui permet de se comparer de temps en temps. On communique un peu avec eux. Voilà.
Oui, Hervé Fuyet. J'étais intéressé par l'accent mis sur le fait que Wikipédia ou d'autres encyclopédies de même nature mettent l'accent plus sur l'aspect procédural que sur le contenu. Et qu'en ce qui concerne la neutralité, il s'agit donc d'exposer l'ensemble des points de vue notables sur le sujet. Et je partage tout à fait ce point de vue, mais il me semble cependant que le processus collaboratif et certaines des règles procédurales peuvent être utilisées aussi pour créer un cerveau collectif en ce qui concerne ces points de vue notables, justement. Que les sources ne soient pas exclusivement des livres publiés ou autres, mais qu'on puisse considérer une interaction. Par exemple, si on prend une discipline telle que l'histoire, ou un thème, un sujet tel que le totalitarisme, par exemple, eh bien, on peut considérer qu'il y a diverses façons. En histoire, il y a des écoles marxistes, d'ailleurs, avec un S, par exemple, et sur le totalitarisme également. Donc, je trouve intéressant la notion de l'interaction entre des wikis se concentrant sur le contenu, mais qui soient collectifs néanmoins, avec leurs procédures distinctes, et Wikipédia ou autres encyclopédies de même nature qui mettent l'accent sur la diversité des points de vue. Voilà. De mon côté, je m'efforce d'œuvrer dans ce sens. Merci.
Oui, bonjour. Je suis Armel Deslandes et je travaille sur l'apprentissage des langues comme formateur indépendant. Je voulais savoir si, à votre connaissance, il y avait des outils dans l'auto-apprentissage des langues par un apprentissage par la traduction. Aujourd'hui, c'est assez communément refusé de pratiquer l'apprentissage des langues par la traduction. Est-ce que sur Wikidia, est-ce qu'il y a un projet en ce sens de faire une comparaison systématique, comme on a vu tout à l'heure dans le télémac de Fénelon, entre un texte et un autre, de manière à rapprocher systématiquement les traductions? Je ne vois pas beaucoup ça sur Wikipédia. En tout cas, moi, je suis persuadé que c'est un élément sur lequel il faut qu'on travaille de manière communautaire, à savoir de faire des contenus qui soient systématiquement, non pas d'un bilingue de page, d'une page à une autre, mais d'un bilingue, d'un bilinguisme d'une phrase à une autre, voire d'une unité de mot à une autre unité de mot. Pour l'instant, cette idée est absolument rejetée par l'Éducation nationale. Mais aujourd'hui, on est dans une possibilité, à un moment en tout cas, où on peut réussir à produire des contenus où on est un mariage du son, de l'écrit et de la traduction. Je ne sais pas si on va vers en ce sens, ou en tout cas, sinon, c'est des entreprises privées qui vont prendre ce virage. Aujourd'hui, ils sont encore incapables, mais ça va venir très rapidement.
Je vais essayer de reformuler votre question. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris, à la fois parce qu'on ne entend pas très bien depuis la scène, en fait, ce qui se dit dans la salle, et puis parce que j'avoue que je les trouve un petit peu compliquées, personnellement. Est-ce que votre question est... est-ce qu'il y a des dispositifs existants pour aller au-delà de ce qui se passe actuellement sur Wikipédia au niveau de ce qu'on appelle l'interwiki, interlangue, où c'est traduit à la main par des personnes qui se sentent la possibilité de traduire d'une langue vers une autre. Vous chercheriez une traduction plus systématique de groupes de mots, c'est ça?
Oui, la question c'est est-ce qu'on a du contenu d'auto-apprentissage de langue, c'est-à-dire simplement avec la traduction et avec du son, on arrive à avoir un apprentissage complet d'une langue en auto-apprentissage. Donc simplement des textes qui sont absolument traduits, soit phrase par phrase, soit phrase par phrase, soit mot par mot.
Est-ce que dans la salle, on a des représentants de la communauté collaborative pour tout ce qui est les langues, les traductions ?
Oui, j'ai quelques éléments là-dessus. Il y a un site qui est apparu là qui se sert notamment de contenu des wikis et de Wikidia, là, c'est Duolingo. C'est Duolingo et .com, je crois. C'est des outils qui se servent, qui sont de nature qui exploitent la collaboration des différents utilisateurs pour apprendre une langue, pour comparer aux traductions qu'ont fait les autres utilisateurs, et qui a besoin d'une base de texte qui peut être prise parmi les wikis. Je pense que les outils comme ça, comme le traitement automatisé, j'ai pas les termes exacts là, de traitement automatisé des langues, choses comme ça, c'est en premier lieu des applications extérieures qui exploitent le corpus que les wikistes réunissent peut-être. C'est en premier lieu ça. Après, il y a quelques outils qui ont probablement lieu d'être adoptés de façon interne. Voilà, c'est ce que je pense. Je pense que surtout, c'est des choses qui sont laissées à l'initiative des initiatives extérieures en exploitant les corpus qu'on a, quoi.
D'autres questions?
Oui, bonjour, Samuel Chalifour, je suis professeur des écoles. Je copilote le début, pour l'instant, d'un projet autour de Wikidia, justement, avec des écoles d'une commune du 92. Et je commence à aborder deux difficultés qui me paraissent essentielles autour du travail collaboratif. Étant avec des élèves de primaire, c'est peut-être une des compétences les plus compliquées pour les enseignants à aborder avec les élèves de primaire. Le côté égotiste de leur fonctionnement psychologique étant une barrière quand même assez difficile à surmonter, mais ça fait partie quand même des objectifs de l'école. Et la deuxième, c'est les outils qui leur permettent à eux ensuite de pouvoir d'un point de vue pratique, rédiger ou en tout cas participer vraiment à la rédaction des articles, qui je crois est une des discussions aussi sur Wikipédia, notamment autour de la grammaire des articles de l'écriture, qui le rend un peu obscur à bon nombre de personnes. Le nombre d'outils permettant de rédiger sous la forme d'un traitement de texte, par exemple, étant très limité. Est-ce que vous auriez des expériences pour aborder, premièrement, le travail collaboratif, surtout sur des projets d'écriture d'articles, et deuxièmement, des outils qui facilitent l'écriture, le côté technique de l'écriture, notamment avec une ergonomie correcte, quoi.
Oui. Donc, il y a quelques projets qui ont eu lieu ou qui ont lieu de participation sur Wikidia, comme il y en a sur Wikipédia. On va parler un peu plus de ça cet après-midi, je crois. Et donc là, selon vous, l'obstacle, ça serait à la fois la syntaxe et puis le travail de rédaction
Oui, la syntaxe, ce n'est pas forcément le principal obstacle. Donc, c'est plutôt, effectivement, le fait de faire rentrer les élèves dans un travail collaboratif et de leur donner des... On parlait tout à l'heure des procédures, mais c'est ça, voilà. Par quoi on commence, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on réunit comme information, qui va se charger de quoi, est-ce qu'on va nommer des élèves qui seront rédacteurs, d'autres vérificateurs, etc. Est-ce qu'il y a des expériences qui ont montré une organisation qui serait plus efficace que d'autres?
Ouais. Donc parmi les projets qui ont eu lieu, le problème qu'on a peut-être, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de les voir IRL, comme on dit, et on voit les productions, mais c'est qu'une petite partie de ce qui se passe, donc on ne voit pas le travail dans les classes. Et donc on n'a pas, donc c'est assez indirect comme indice, et on a quelquefois des retours assez plutôt sommaires, quoi. Donc c'est difficile de faire des retours d'expérience développés. C'est pour ça que c'est intéressant de se voir comme aujourd'hui, quoi. Sinon, je pense que le travail collaboratif comme ça, en effet, pour une classe qui travaille de façon un peu ponctuelle, eh ben, il faut être réaliste sur ce qu'on fait. Si on crée un article de façon ponctuelle, il ne faut pas compter sur ce que ce soit du travail collaboratif si on ne revient pas voir ce que les améliorations qui ont été faites au bout de à la fois 24 heures ou un mois ou trois mois plus tard sur l'article, quoi. Donc en fait, il y a des tas de façons de faire. Moi, j'ai fait une intervention quand même dans une classe de CM1 récemment, seulement sur une heure et demie. Et ça, on voulait quand même, j'avais vu l'enseignant avant, et on voulait quand même qu'il fasse une contribution sur Wikidia. Ils avaient déjà l'habitude d'y aller comme lecteur, et on a choisi, j'ai pensé là à leur faire ajouter des images du jour. Les images du jour, elles sont, on a automatisé une sorte de calendrier. Là, ils ont choisi dans les articles une image. Et ils vont sur la bonne page, comme ça, de janvier 2013, et ils mettent un petit peu de code, l'image, une légende, et elle apparaîtra, les images qu'ils ont choisies apparaîtront en page d'accueil tel jour. Donc c'est pas de la rédaction, c'était juste pour tester le fait de modifier quelque chose sur le wiki. Et donc c'est pour dire qu'on peut faire des choses un peu à toutes les échelles, si on a une heure et demie ou si on a un an. Si ça peut être un seul article après un voyage d'une semaine de classe de neige, etc., on se fixe sur un sujet. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire, tant qu'on connaît un peu ce qu'il peut y avoir comme contenu. Voilà. Donc avoir des réponses plus précises, ça demanderait plus d'échanges qu'on a pour l'instant.
Merci.
Oui, je viens de passer voir Simple English Wikipedia, et en particulier la comparaison est passionnante quand on regarde ce qu'il y a sur Obama, et qui de fait serait très très facilement accessible pour des gens du secondaire, en anglais bien sûr, et l'article principal de Wikipédia qui lui bien sûr est beaucoup plus long et beaucoup plus documenté. Mais en fait on constate aussi un point très simple, c'est que si j'ai bien lu, on annonce de l'ordre de 4 millions d'articles dans la Wikipédia en anglais, et là 90 000 pour Simple English. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes masses critiques, ce qui est en même temps très bien, parce que ça veut dire qu'on peut écrire sur des sujets qui sont choisis et qui sont directement, allez, on va dire, scolaires. Donc ça, c'est un premier point. Et là, du coup, j'aimerais une question. Comment est-ce que c'est géré? Parce que Wikidia est une structure indépendante, différente, qui n'est pas lié directement à Wikipédia, à Wikimedia France, que je sache. Là, Simple English, est-ce que ça dépend de Wikimedia américaine ou anglaise? Je ne sais pas, ça c'est une question. Et le deuxième point, sur le fond, vous avez probablement entendu parler de, ça devait être un dictionnaire des écoliers, dans lequel il y avait écrit par des enfants, CE1 ou CM, etc., des définitions. Et ça a choqué, bien évidemment, sur la représentation du genre qui était celle de ces enfants. Avec le problème, là, dans ce cas précis, qui me semble être double, il y a, est-ce qu'on veut faire écrire des écoliers? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est nécessaire que ce soit diffusion internationale? Parce qu'on peut aussi avoir des formes de wiki qui fonctionnent sur un usage un peu plus modeste et qui font qu'on peut effectivement s'entraîner. Ou est-ce qu'on veut produire un wiki qui soit accessible dans le mot, les expressions, les phrases, le contenu à des écoliers, à des collégiens ou à des lycéens, ce qui est une autre ambition. Par conséquent, de temps en temps, ça serait intéressant qu'on ne confonde pas les deux éléments, les deux activités.
Je vais peut-être répondre sur la question du lien entre le mouvement Wikimedia et Wikidia, éventuellement. Alors actuellement, Wikidia est un projet qui n'est pas supporté par les serveurs, de la fondation américaine Wikimedia. Le mouvement Wikimedia s'intéresse depuis très longtemps à des versions accessibles par les enfants, à des contenus accessibles et modifiables par les enfants, type Wikipédia, encyclopédique type Wikipédia. La communauté réfléchit aux liens qu'elle peut entretenir avec le projet Wikidia, étant donné qu'on a des objectifs qui sont les mêmes, des méthodes qui sont quasiment les mêmes. Il s'agit simplement d'un public différent avec qui on travaille. Sur Wikipédia, il y a déjà des enfants qui modifient des pages, avec plus ou moins d'aisance, avec plus ou moins de pertinence, mais ils y sont déjà. La différence avec Wikidia, c'est que on produit un contenu à destination des enfants par des enfants, et on identifie davantage les contributeurs comme étant des enfants. Du coup, je crois qu'on peut se permettre, on a un meilleur suivi de ces contributeurs assez particulier, un rapport à eux qui est peut-être plus adapté que sur Wikipédia, et ça, c'est une donnée qui intéresse le mouvement Wikimedia. Voilà. Après, savoir quelle sera la nature du lien entre les deux au niveau, on va dire, structurel, administratif, etc., au niveau du support des projets, c'est en cours de réflexion.
Oui. Pour la suite. Oui, non, sur cette question-là, oui, en effet, c'est un mouvement qui est autonome. Il se trouve que Wikimedia France a quand même adhéré à l'association dont Wikidia, mais c'est pas un hébergement. On est autonome pour l'instant. C'est une possibilité qu'on rejoigne le mouvement Wikimedia, mais ça bouge pas vraiment maintenant exactement. Il se trouve qu'il y a un projet externe récemment qui a rejoint, donc c'est Wikivoyage qui a rejoint les projets de la Wikimedia Foundation. Donc il y a un précédent comme ça d'un projet qui a été développé, c'est la première fois je crois, un projet wiki extérieur à la Fondation qui a été adopté par la Fondation parce qu'il était mal maintenu par ceux qui s'en occupaient, quoi. Voilà, donc là il n'y a pas de lien actuellement, mais il pourrait y en avoir, c'est pas exclu qu'il y en ait, quoi, mais si ça bouge un peu, s'il y avait s'est bougé un petit peu et qu'il y avait des conditions qui, du côté de Wikidia, paraissent satisfaisantes, quoi. Alors que Simple, bah, c'est une version de Wikipédia, donc, par rapport aux interwikis, c'est considéré comme une version, c'est comme si c'était une autre langue.
Mathias, excusez-moi, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Ah oui. Alors que Simple, c'est considéré, enfin, il y a un préfixe comme pour une autre langue. C'est une version de Wikipédia. Donc ça fait comme une, comme si l'anglais simplifié était une langue de plus. Donc voilà, et oui, voilà. Et donc après, pour l'autre partie de la question, par l'exemple du dictionnaire, donc j'en ai entendu parler en effet, d'un dictionnaire écrit par des enfants qui, apparemment, deux fois de suite, a fait un petit peu parler de lui, parce qu'il y avait des définitions qui étaient un peu orientées oui, dans le genre sexisme, etc. Parce que. Et donc la question c'est si on peut avoir du contenu créé par les enfants qui soit vraiment mis en ligne, etc. quoi. La façon dont on fait par rapport à ça, c'est que on prétend pas avoir du contenu qui est écrit exclusivement par les enfants, quoi. Quand ils commencent à écrire un article, quelquefois on a le souci quand même de garder un peu la première approche qu'ils ont eue, mais après on en rajoute, on corrige, on n'hésite pas à corriger pour que ce soit un contenu utile pour d'autres enfants, quoi. Donc on laisse pas tel quel des expressions naïves, mais un petit peu limite d'un certain point de vue, quoi.
Juste par rapport aux enfants, je crois qu'il faut jouer le jeu à fond. On ne peut pas faire un wiki pour les enfants et puis ensuite vouloir le corriger pour qu'il soit gay-friendly, black-friendly, parisien-friendly ou que sais-je. Bien sûr que les enfants vont avoir, par exemple, sur les parents, des définitions qui vont être très marquées au niveau de la sexuation ou du genre. Je pense que c'est plutôt bien et que même les expressions naïves des enfants, il faut leur laisser cette naïveté précisément parce que ce sont des enfants. Si un dictionnaire des enfants, il ne peut pas être aussi valide qu'un dictionnaire de l'Académie française. Ce n'est pas possible. Là, je crois qu'on touche à une limite de ce type de travail si on réécrit derrière ce que les enfants ont mis les articles pour qu'ils soient de plus en plus compatibles avec la pensée courante ou dominante.
Oui, enfin, je voulais rajouter quelque chose en me demandant si ce que j'avais observé chez des adultes rejoignait probablement ce qu'on peut observer chez des adolescents. C'est que quand on leur donne un cadre institutionnel pour faire le travail collaboratif, pour le réaliser, en général, ils n'en veulent pas. Hein. Ils veulent être à l'extérieur. Même si, ce que j'ai dit tout à l'heure, en l'occurrence, le travail qu'on leur demandait servait à l'évaluation et à l'obtention du diplôme, ils voulaient faire ce travail à l'extérieur, par exemple, du wiki, de la plateforme de formation. Ils voulaient choisir leurs propres outils totalement librement. Donc, chaque fois qu'une plateforme ou un wiki est identifié comme étant scolaire, entre guillemets, il est déserté en général. C'est sur les réseaux, à l'extérieur, avec des outils similaires, mais qui se sont choisis eux-mêmes, que même mes adultes participent. Donc, je pense que... Alors, peut-être qu'ils font comme des adolescents, parce que, évidemment, c'est des adultes en situation de formation. Donc, ils ont tendance à retrouver le comportement qu'ils avaient quand ils étaient à l'université ou au lycée, peut-être. Mais, en tout cas, le fait qu'un outil collaboratif soit estampillé institutionnel fait qu'en général, il n'est pas utilisé, même s'il est formidable. Donc là, franchement, dans la dernière formation dans laquelle je participe, eh bien, ils ne se sont pas cassés la tête, ils n'ont pas donné d'outils, parce que de toute façon, les élèves partent sur les Google Apps et autres, enfin ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ce n'est pas la peine d'investir dans de la classe virtuelle et de la plateforme de formation à ce niveau-là.
Sans compter qu'on peut, on peut considérer qu'une multiplication des outils ne fait que disperser l'attention et que, enfin, après ça c'est un point de vue personnel, qu'il vaut mieux investir, enfin que les professionnels de l'éducation se saisissent des outils déjà existants où les gens sont déjà, plutôt que créer autre chose où il va falloir, même si ces outils, on peut espérer qu'ils soient ergonomiques, intuitifs, etc., ça n'est pas nécessairement le cas concernant les outils que l'on peut trouver dans l'éducation nationale par exemple ou autre. Mais à chaque fois ça demande quand même un nouvel apprentissage, peut-être plus de difficultés pour se ressaisir des savoirs qu'on aura déposés à cet endroit-là, alors qu'il vaut mieux mettre ses connaissances, mettre cette énergie collaborative dans des endroits où on est déjà.
À ce propos, justement, oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je pense qu'en tant qu'éducateur, quoi, là où il faut insister, c'est l'éducation aux usages. Les usages qui sont donc bien pour l'essentiel à l'extérieur des plateformes de formation, mais justement qui ont donc qui vont laisser énormément de traces et qui vont suivre l'adolescent et l'adulte, etc., tout au long de sa vie s'il ne maîtrise pas les usages et lorsqu'il produit toutes les notions de public, de privé, etc. Donc là, il y a énormément d'éducation à faire.
Oui, bonjour, Adrienne Alix. J'avais une réflexion qui a ressurgi brutalement quand Yann Leroux disait qu'il ne faut pas adapter le contenu, ce qu'écrivent les enfants sur un dictionnaire. Il y a un point qu'on n'a pas trop abordé, je trouve, dans ce qui a été dit, c'est est-ce que la contribution des enfants, ou des jeunes, des adolescents, ou des personnes en situation de formation, est-ce qu'on l'envisage uniquement comme une expérience pédagogique ou est-ce qu'on l'envisage comme une manière de produire un contenu ? Par exemple, sur le dictionnaire des enfants, le fameux dictionnaire des enfants qui n'a pas été du tout retouché, où mes propres enfants ont contribué dessus dans le cadre de leur classe et c'était une expérience pédagogique intéressante, mais le résultat en soi n'est pas forcément un résultat qui est intéressant. Même pour les enfants, c'est pas forcément des définitions qu'on a envie que les enfants apprennent. Par contre, Wikidia est clairement un site par et pour des enfants, mais pas que. Mais c'est d'abord une encyclopédie. C'est pas d'abord une expérience pédagogique, je pense. Enfin, si, peut-être je me trompe, mais de la même façon que Wikipédia n'est pas d'abord une expérience sociologique. C'est d'abord un projet d'encyclopédie. Et j'aimerais bien... éventuellement avoir vos avis sur cette question-là, le fait de savoir si le collaboratif et le contributif pour des personnes en situation d'apprentissage ou qui sont assez jeunes doit être envisagé comme une expérience pédagogique et à la limite on s'en fiche un peu du résultat et de la qualité du résultat et de ce qui en sera fait après, ou si on doit juste aménager un cadre qui soit favorable aux jeunes ou aux enfants ou aux personnes en situation d'apprentissage, mais pour un projet qui, lui, n'est pas simplement une expérience et qui a une vraie finalité et une vraie capacité de réutilisation. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais...
Pourquoi ça s'adresserait à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Non, mais si vous voulez... Oui, sinon, mais... Je pense que le pari qu'on a fait finalement sur Wikidia, c'est que les objectifs pouvaient se renforcer l'un l'autre. Mais ça marche probablement dans des situations particulières, c'est-à-dire ça implique qu'on a des contraintes sur le contenu qui permettent pas toutes les productions qui auraient un intérêt pédagogique par ailleurs, quoi. Moi, je disais comme exemple, si des enfants allaient faire une interview et qu'ils la transcrivent, ben c'est intéressant à faire. Mais on va pas faire un article qui soit une interview sur Wikidia. Donc après, il y a des choses qui Dans les scénarios pédagogiques, disons, il peut y avoir d'autres choses, et après que ça s'articule avec la production d'un contenu sur Wikidia. Mais je pense que c'est compatible. Et puis en effet, nous, on prend sérieusement la contrainte d'avoir un contenu sérieux, et on y réussit, je pense, parce que le contenu est en fin de compte un service rendu au lecteur, quoi. Et après, il faut juste bien voir où on va quand on fait une session pédagogique, quoi, si ça colle ou pas, quoi, ou s'il faut s'abstenir de le mettre en ligne. Voilà.
Alors, mon point de vue, c'est que l'aspect pédagogique qui doit primer. Hein, ce sont des expériences qui sont faites en classe avec des enfants. Elles sont importantes parce qu'elles sont faites en classe ou avec des enfants, ou même si elles ne sont pas faites en classe, elles sont importantes parce qu'elles sont faites avec des enfants et pour des enfants. Et ce qu'ils apprennent, c'est la manière dont on va éditer une page, dont on produit une connaissance, dont on va chercher des sources, etc. Pour moi, les articles qui sont déposés sur ce genre de sur ces wikis ne sont pas, ils peuvent pas accéder au statut d'encyclopédie. Hein. En aucun cas, un étudiant en sociologie va s'appuyer sur ces articles pour écrire son mémoire de sociologie. Il pourra s'appuyer dessus pour faire un travail de sociologie sur la manière dont les enfants utilisent les médias, mais ça va s'arrêter là. Les dessins que font les enfants en classe, en maternelle, ne finissent pas au Louvre. Et je ne vois pas pourquoi les articles qu'écrivent les enfants sur un wiki devraient être avoir cette... la prétention d'être des connaissances aussi bien construites que les connaissances produites par un adulte. La difficulté, c'est qu'en ligne, tout se vaut. Hein. C'est vraiment la force des mondes numériques. Mais dans le cadre du développement des enfants, je crois qu'il faut bien maintenir les différences entre le monde des adultes et le monde des enfants, parce que c'est cette différence qui leur donne envie de grandir. Si on dit à un enfant de CM2 que ce qu'il écrit dans un article psychologie a autant de valeur et aussi bien écrit et aussi bien conçu qu'un article écrit par Jean Piaget, je pense qu'on ne lui rend pas service et qu'on ne rend pas service à la culture en général.
Oui, mon problème, c'était pas ça, c'était plus de dire qu'est-ce qui est le plus intéressant, créer un wiki ou un projet autonome pour des enfants où ils puissent travailler en collaboratif vraiment entre eux, etc. Ou est-ce qu'il est plus intéressant au final de les faire contribuer sur des projets qui existent déjà? C'est ce qui était dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait déjà des enfants sur Wikipédia et qui rentraient dans le processus de règles de Wikipédia et qui s'y adaptent. Et quel est le plus intéressant? Faire D'accord. une expérience pédagogique super intéressante mais en vase clos, mmh. ou faire rentrer dans un autre projet?
J'avais pas compris ça, alors je m'échauffe, mais pour rien. Alors, ça... là, ça dépend vraiment du degré de maturité des enfants. S'ils sont suffisamment matures pour rentrer dans un projet existant et puis s'y fondre, ça peut être tout à fait utile. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible parce que le groupe ne va pas avoir intériorisé suffisamment les valeurs du groupe vers lequel il va aller. Et donc, il vaut mieux travailler sur le groupe classe en lui-même. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que l'enseignant doit évaluer avec sa propre classe.
Alors, peut-être une dernière remarque et ensuite on va conclure parce qu'il est déjà une heure.
Oui, oui, moi, je voulais répondre à ce que Yann Leroux disait juste avant. Là, sur c'est une question intéressante de savoir si c'est raisonnable de prendre au sérieux les contributions comme ça. Et je dirais, si la question c'était oui ou non, de les prendre directement... comme des contributions sérieuses, ben non, on les prend pas sans son travail dessus. Mais on n'est pas les premiers à faire ce genre de choses. Les bibliothèques de travail du mouvement Freinet étaient bien sur le même principe, des articles produits par des classes et qui avaient un fonctionnement de validation ensuite, qui était relu, etc., qui avait une façon de de travailler sur le premier jet qui pouvait y avoir de la part des enfants pour avoir ensuite une ressource documentaire valable quoi. Et donc Wikidia c'est ça, c'est une ressource documentaire, c'est pas une ressource scientifique quoi, mais c'est une ressource documentaire qui se veut valable et puis qui l'est, je pense, en bonne partie. Et on a pas le système de relecture des bibliothèques de travail Freinet, mais on a celui de Wikipédia et finalement, je pense qu'on a dit durant ces deux jours combien est-ce que ça marchait également quoi. C'est pas le communauté de lecture ou la rédaction d'une revue publiée. Mais ça marche également grâce aux contributeurs qui sont également des adultes et des adolescents. Voilà. Et il y a souvent du contenu qui arrive qui est vraiment pas mûr, qui est vraiment pas qui a les défauts du contenu enfantin tel qu'on les présume comme ça. Et à ce moment-là, il est purement supprimé, soit c'est voilà. Mais pourtant, il y a de la production qui arrive de la part de ces enfants et adolescents qui contribuent au contenu valable quoi qu'il y a.
Ok. Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus parce que malheureusement le temps n'est pas extensible contrairement au wiki. Je voulais vous remercier d'avoir participé à cette séance et remercier surtout nos trois intervenants.